infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, manipulateurs radio, ils nous accompagnent dans les épreuves, mais aussi dans les plus beaux moments de la vie. À travers une série de podcasts, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers leur donne la parole. Ces femmes et ces hommes racontent les fragments d'un quotidien au cœur de l'hôpital. Quels moments ravivent leur vocation? Quels patients les ont marqués? Bienvenue dans Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la MNH, réalisée en partenariat avec Chérie FM.
Je m'appelle Frédéric, je suis sage-femme depuis 2014 dans des hôpitaux de niveau 3 et j'ai 33 ans. Donc je travaille dans un hôpital de niveau 3 depuis mon diplôme et en fait il y a 3 niveaux en France, 1, 2 ou 3. Et les niveaux 3, c'est donc toutes les prises en charge qui puissent exister en France. Il y a des réanimations néonatales, des soins intensifs néonataux. On prend vraiment en charge tous les bébés qui ne vont pas bien. Et quel que soit le terme pour le coup, moi je voulais travailler dans les niveaux 3 par rapport au fait justement qu'on prenait en charge toutes les pathologies. D'un point de vue connaissance médicale, c'est très stimulant et c'est très intéressant. Donc je suis arrivée en janvier 2020 dans l'hôpital actuel. Alors moi, exclusivement, je ne travaille que en système de garde, justement, c'est-à-dire que je suis que en salle de naissance, aux urgences gynécologiques, en grossesse pathologique ou en maternité. Et donc là, c'est que des gardes de 12 heures qui sont soit de jour, soit de nuit. Je ne fais pas de consultation anténatale ou prénatale, je ne fais que les services d'urgence, en gros. Ça me plaît beaucoup cet équilibre de garde, ça bouge tout le temps, c'est rythmé de manière complètement aléatoire. Parfois ça peut être très calme, parfois c'est très agité, voire la folie complète. En garde, c'est nous en première ligne, on est au cœur de l'action. Mon histoire commence en février ou mars 2020, donc ça faisait 2 ou 3 mois que je venais d'arriver dans cet hôpital-là. Donc là, j'arrive, je suis ce jour-là de garde aux urgences gynéco. Je me suis levée donc à 5h15, j'ai une demi-heure de route. J'arrive le matin, ça discute avec les collègues de la nuit, ça prend un peu la température de comment s'est passée la nuit. Est-ce qu'il y a des choses à transmettre du coup au petit matin et s'il y a des choses particulières à nous dire ou pas. En fait, les transmissions, c'est vraiment savoir qui est là et pourquoi elles sont là. Est-ce qu'elles sont là en travail? Elles ont déjà une péridurale? C'est un premier bébé, un deuxième bébé? Quel est le prénom du bébé? Comment la grossesse s'est passée? Est-ce qu'il y a des antécédents particuliers? Est-ce qu'il y a un projet de naissance particulier? On parle vraiment de toutes les patientes qui sont présentes. Alors moi, ce jour-là, je suis assignée aux urgences gynécologiques. Donc les urgences gynéco, c'est toutes les patientes en fait qui ont besoin de voir en urgence un professionnel de santé. On peut avoir des dames qui viennent pour des saignements en début de grossesse, une dame qui a rompu la poche à terme mais qui n'a pas de contractions, une dame qui a rompu la poche mais qui a des contractions, une dame qui a des contractions qui a toujours sa poche. Enfin, on a vraiment de tout. Donc aujourd'hui, je suis aux urgences gynécologiques pour les 12 heures qui viennent. Donc je ne suis pas censée faire d'accouchement ce jour-là puisque je suis censée accueillir les patientes avant l'accouchement. Donc voilà, sauf que ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Ce matin-là, on arrive, c'est calme. C'est-à-dire que les lumières sont quasiment éteintes. Nos collègues de nuit sont assises. On prend les transmissions, on est en train de boire notre café, on discute, on demande comment s'est passée la nuit. Enfin bref, pour le moment, tout se passe bien. Et là, le téléphone sonne. Et là, on entend un papa à l'interphone qui nous dit « Ma femme accouche !» en hurlant. Donc là, on sait que voilà, elle est en train d'accoucher, c'est imminent. En fait, notre hôpital, donc nous, nos urgences et notre salle de naissance se trouvent au rez-de-chaussée. Il y a un accès quasiment direct qui se trouve au sous-sol. Donc les gens arrivent en voiture, se garent en sous-sol de l'hôpital, appuient du coup sur le bouton de l'interphone. L'interphone arrive directement sur notre téléphone à nous aux urgences gynéco. Et en plus, on a une petite caméra qui nous montre le papa en panique, qui se retourne dans tous les sens en disant « ma femme accouche », il ne sait pas s'il doit continuer de parler ou retourner auprès de sa femme. Bref, voilà, donc on dit « monsieur, on descend, on arrive ». On n'a aucune info, on sait juste que le bébé n'est vraiment pas loin, que le papa est très inquiet et on n'entend pas la mère. On ne voit pas la mère non plus à l'interphone. Donc on se doute que la mère est dans la voiture. Là, l'urgence est évidente, il faut qu'on descende. Dans ce genre de situation, l'adrénaline, elle monte d'un coup. Ma collègue des urgences de nuit ainsi que moi, on se lève tout de suite. Nos collègues de salle de naissance se lèvent également pour préparer la salle de naissance. Nous deux, donc, on se dirige directement vers la sortie. Donc, on repasse par l'entrée des urgences. En passant par l'entrée des urgences, on récupère la mallette d'accouchement en cas d'urgence pour justement les accouchements sur le parking. Donc, on récupère la mallette, on descend en trombe par les escaliers, on arrive sur le parking et là, de nouveau, on établit la situation pour voir un petit peu quel est le degré d'urgence. On récupère le pack d'accouchement. Donc, c'est quoi? C'est en gros une espèce de mallette en plastique transparente. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour un accouchement imminent en urgence quand on n'est pas en salle de naissance. Donc, il y a des gants, il y a des compresses, il y a des clans, il y a des ciseaux, il y a un peu de tout. Il y a un champ pour le bébé qui est une espèce de linge, finalement, pour le sécher. On a une couverture de survie également pour le maintenir bien au chaud. Et on a un autre champ, là, pour le coup, qu'on met sous les fesses de la patiente pour récupérer, finalement, toutes les sécrétions, tous les saignements qu'il peut y avoir. Et en fait, ce champ sert à double usage. Un, pour tout récupérer. Et deux, pour quantifier la quantité de sang qu'elle aurait éventuellement perdu. Ça nous permet de savoir, justement, s'il y a une hémorragie ou pas. Ce qu'il faut absolument, si jamais ça arrive à qui que ce soit, il y a un accouchement qui se passe comme ça devant vous, c'est que le bébé soit bien au sec. Parce qu'un bébé se refroidit très très vite. Donc surtout bien couvrir autant le corps que la tête. C'est vraiment la tête où il perd énormément de chaleur. Juste on sèche et on couvre bébé et on a déjà les bases. Donc la mallette, c'est vraiment un outil essentiel pour tous les accouchements imminents en urgence. Donc on prend la mallette, on se met à courir, on a tout. On arrive au sous-sol, on voit un papa en panique. On voit une voiture qui est garée, entre guillemets, en double file devant l'entrée des urgences. On entend des cris et on entend que c'est vraiment un espèce de râle profond qui vient du fond de la gorge et pas un cri aigu. Les cris aigus, c'est des cris de douleur, souvent en début de travail. Là, on sent que c'est une poussée qui vient vraiment des tripes du fond. On sait que c'est pour bientôt. Et voilà, on se dirige automatiquement vers ces cris, vers cette porte de voiture. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une patiente allongée sur le dos, sur la banquette arrière, les deux jambes écartées, le pantalon toujours en place, et la patiente qui nous hurle, il est en train de sortir, faites quelque chose. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est rentrer en contact avec la patiente. Donc on lui pose quelques questions déjà pour un peu situer l'événement. Est-ce que c'est un premier bébé? Est-ce que la grossesse s'est bien passée? Est-ce qu'il y a un utérus cicatriciel? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à nous dire avant de commencer? Vite fait, bien fait, on essaie vraiment d'aller au plus rapide. Donc, en lui posant les questions, on lui demande également si on peut retirer le pantalon. Là, clairement, on arrive, on retire le pantalon, on voit que les cheveux commencent à apparaître. On se dit, OK, on n'arrivera jamais à temps en salle de naissance. L'enfant devra naître ici, on n'a pas le choix. J'ai finalement proposé des gants, du coup, à ma collègue qui a enfilé ses gants pour faire l'accouchement. Et je lui ai donné également le champ. Le champ étant stérile, elle a récupéré le champ une fois qu'elle avait enfilé ses gants. Hop, elle les a mis sous les fesses de la patiente. On y va, on va au plus rapide. Là, pour le coup, c'est notre formation et notre rôle, voire même notre devoir de rester calme. Parce qu'une sage-femme qui commence à s'exciter, à s'énerver ou à perdre son sang-froid ne peut pas travailler correctement. Ne serait pas capable, un, de rassurer la patiente, deux, de rassurer le mari, et trois, d'assurer justement les soins à apporter à cette maman et à son bébé. Donc là, pour le coup, c'est notre formation initiale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi 5 années. Hein. C'est pour affronter les situations les plus compliquées, pour justement voir, OK, en fait, c'est pas parce qu'on va commencer à s'agiter, etc., qu'on va être plus compétent. Pas du tout, au contraire. On commence pas à crier avec elle. Non, non, pas du tout. On dit, OK, madame, là, en effet, vous êtes en train d'accoucher. Tout se passe très bien. Le bébé n'est pas loin. J'installe les champs et dès que c'est prêt, vous y allez, vous donnez tout et votre bébé, il va naître dans la minute et vous l'aurez sur vous, ça sera fini. Voilà, je pense que c'est à peu près ça qu'on lui a dit, le plus calmement possible, le plus posément possible et le plus clairement possible pour que justement la patiente, elle sache, OK, là, je suis entourée de pros, je vais y arriver. Nous, on est juste là pour vous dire que tout se passe bien et s'il y a quelque chose, on est là pour intervenir. Mais s'il n'y a rien, on ne va rien faire en fait. Hein. On va juste observer, on va vous accompagner jusqu'au bout, mais on va presque être figurant et tant mieux. Donc non, continuez, c'est très bien. Il y a l'ouverture du corps qui se fait naturellement, dans le sens où on ne lui a pas du tout demandé de se mettre en position gynéco, on ne lui a pas du tout demandé d'écarter les jambes, etc. Elle l'a fait naturellement en fait, pour libérer le bassin et laisser toute la place au maximum. Et elle a une concentration dans le regard. Quand on lui dit « OK, madame, allez-y, poussez », elle nous a regardé avec des yeux bien intenses, le cri bien profond. L'enfant est sorti, je pense, en 2 poussées. Et voilà, enfin, c'était très intense. En moins d'une minute, il était là. Hein. Là, dans cette situation, en tout cas, on a eu une minute trente, pas plus. Alors, quand le bébé sort, on est censé stimuler ce petit bébé. Donc là, on se met justement à le sécher tout en le stimulant. C'est un peu plus vigoureux qu'une caresse. C'est un peu oui, comme une gratouille, comme si on lui grattait le dos ou on lui grattait les pieds. Donc on le dérange, mais exprès, pour justement qu'il dise « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il se met à crier. Et en fait, quand il se met à crier, il ouvre toutes ses alvéoles pulmonaires et donc ses poumons sont grands ouverts. C'est pour ça que le premier cri est si important, parce qu'on sait que les poumons, ça y est, sont ouverts et il peut y aller pour respirer correctement. Très vite, il crie, il réagit, il est bien rose, il est bien bien tonique, on sait qu'il va bien, etc. On finit de le sécher, on finit de bien l'isoler d'un point de vue thermique, mais on sait qu'il est en pleine forme. Ça a l'air d'aller, la maman a l'air d'aller, tout va bien. Déjà, il y a un énorme soulagement de la part de la maman, puisque l'enfant est sorti, l'enfant va bien. Donc ça y est, elle est devenue mère pour la deuxième fois, tout va bien. Donc on est toujours dans le parking, il fait toujours à peu près 10 degrés à l'extérieur, même si dans la voiture il fait un peu plus chaud, mais il fait quand même toujours frais. Donc il est important à ce moment-là quand même de se hâter que l'enfant reste bien au chaud. Un bébé est à 37 degrés pendant toute la grossesse, plus ou moins. Donc ça veut dire que c'est comme un super sauna, un super jacuzzi pendant 9 mois. Donc tout d'un coup, il sort dans le milieu extérieur, donc clairement il se refroidit. Donc c'est ma collègue qui est toujours là, qui elle reste avec maman. Et puis à ce moment-là, j'ai mes collègues aussi qui arrivent de salle de naissance avec le fauteuil roulant pour prendre la suite. Donc moi, je me dirige vers l'ascenseur ou les escaliers pour remonter avec bébé et papa. Et mes collègues, eux, prennent la suite pour s'occuper de maman et faire en sorte que justement, elle délivre son placenta en salle de naissance et pas dans la voiture. Donc j'arrive en salle de naissance. Mes collègues de salle me voient arriver avec un bébé, donc se disent « Ah, bah elle a accouché !» Donc je place tout de suite bébé sous les rampes chauffantes. Et après, là, on commence les premiers soins. C'est le premier examen de bébé, c'est comme ça que ça s'appelle. On regarde plein de choses. Le premier examen du nouveau-né est obligatoire et est obligatoirement fait soit par le pédiatre, soit par les sages-femmes. C'est un examen médical et donc voilà, il est indispensable avant la sortie de la salle de naissance. Mais en tout cas, c'est le fait de l'examiner, de voir qu'il bouge dans tous les sens et qu'il a l'air d'être en bonne santé. Voilà, ça confirme qu'il est en super forme et que lui, l'accouchement rapide, ça n'a pas du tout été un problème. Donc, pendant qu'on finit le premier examen clinique de bébé, j'entends du coup que la maman arrive dans la salle d'accouchement juste à côté, donc c'est parfait. Le papa également, il est rassuré de savoir que sa femme arrive. Donc, mes collègues installent la patiente sur la table d'accouchement et à ce moment-là, la maman délivre son placenta en salle de naissance avec voilà, tout ce qu'il fallait, où il fallait. Donc, tout le monde est rassuré, tout le monde est content. Le placenta, c'est une étape clé, c'est la maison de bébé. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui permet de nourrir bébé pendant toute la grossesse. Donc, il est très important que le placenta sorte pour éviter tout risque d'hémorragie. Et on est sûr, là, dans ces cas-là, que tout est maîtrisé, tout est contrôlé. Donc, elle est arrivée en salle de naissance, donc elle se délivre, tout se passe très bien. On voit qu'elle ne saigne pas. Moi, pour bébé, tout allait bien également. Donc, en fait, je récupère bébé pour justement le remettre en peau à peau sur sa maman. Et là, vraiment, la patiente se retourne vers son mari en disant « Mais tu te rends compte, je l'ai fait. J'ai accouché sans péridurale. » Après, voilà, ils étaient tous les trois réunis, tout le monde allait bien et c'était très beau à voir. La journée continue, la journée vient de commencer même. Il doit être, je pense, 7h20 maximum quand je retourne dans mon service, peut-être 7h30 grand max, voilà. Et en plus, je rappelle qu'en effet, je suis aux urgences gynéco, donc je n'étais pas censée faire d'accouchement aujourd'hui. Bon, l'histoire en a décidé autrement. Ce qui me plaît normalement, c'est justement de ne pas savoir de quoi va être faite la journée, en particulier aux urgences et en salle de naissance. C'est vrai que c'est vraiment les deux services où je pense qu'il y a le plus d'adrénaline et c'est là où il y a le moins de routine possible. Cette histoire est l'exemple type de ne pas savoir ce qui se passe et à quel point la situation peut se renverser en un coup de fil. Il y a aussi une histoire derrière chaque accouchement. Et donc, ce n'est pas juste un acte. On n'est pas des robots à sortir un bébé, pas du tout. C'est vraiment un épisode de vie pour les mamans. Et c'est vrai que nous, on a cette chance de participer à cet épisode-là. Et c'est ça qui est très beau. Chaque couple est différent, chaque couple a sa personnalité, son histoire de vie, son histoire de grossesse. Parce que parfois, ça fait 8 ans qu'ils attendent cet enfant, il y a eu une PMA, ça a été hyper long. D'autres fois, il y a un déni de grossesse, elle arrive, elle accouche, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Enfin voilà, il y a vraiment que des histoires différentes, que des personnalités différentes. On a vraiment de tout. Et c'est ça qui est super, c'est ça qui fait que chaque couple qu'on rencontre, c'est autant intéressant que chaque cas médical en fait. C'est que des histoires de vie. C'est accompagner la vie. Alors, c'est pas la donner, hein, parce que clairement, nous, on donne pas la vie. C'est les mamans qui donnent la vie. Nous, on accompagne, on essaie d'être présente au maximum et plus ou moins présente selon le besoin des parents. Mais clairement, on est là. Et s'il y a quoi que ce soit, on intervient. Donc, on a une vraie responsabilité et un vrai engagement médical. Nous, notre rôle, de toute façon, c'est la patiente, la femme, la femme, la femme. Et une fois que le bébé est sorti, la femme et son bébé. On voit en effet donc toutes sortes de personnalités et toutes sortes de pathologies. On peut rencontrer la mort, on peut rencontrer des interruptions médicales de grossesse ou des morts fœtales in utero, donc ça veut dire un bébé qui est décédé dans le ventre. On accompagne les parents dans la souffrance ou au contraire, on les accompagne dans la grande joie, dans le meilleur moment de leur vie, dans des situations absolument fantastiques, incroyables. C'est énormément d'émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Et du coup, c'est ce qui fait vraiment voilà, l'intensité et la richesse du métier. C'est ce qui fait qu'on se dit, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment les moments les plus authentiques et les plus intenses de la vie. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, réalisée en partenariat avec Chérie FM. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous pour être certain de ne pas manquer les prochaines histoires. Histoire d'Hospitalier est disponible sur le site et l'application Chérie FM, sur le site mnh.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.